Après ce moment de baptême et de profession de foi de Pierre Rivin, ce qui est vraiment, pour moi en particulier, mais je pense aussi pour nous tous, une joie importante et quelque chose qui nous apporte quelque chose de profond et de vrai, je vous propose d'aller à la découverte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, de 6 paraboles, pas moins de 6 paraboles, sur le même thème. Alors c'est, je trouve, assez étonnant qu'il y ait non pas seulement un discours de Jésus, mais tout un bouquet, un ensemble, un peu contradictoire, un peu riche et divers, de paraboles, de petites histoires curieuses pour nous parler de quoi ? Du royaume des cieux. Alors le royaume des cieux, ça semble un peu mythologique, un petit peu étrange, mais il s'agit de quelque chose de fondamental pour nous, bien sûr, car le royaume des cieux, derrière cette expression, eh bien, il y a finalement une figure de ce vers quoi nous voulons tendre, la finalité de notre histoire. Et donc, c'est à la recherche de cela que je vous propose de partir à travers ces 6 paraboles. À partir du verset 24 au chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus leur proposa une autre parabole. Il leur dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu des blés et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un homme ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent alors : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez grandir ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Il leur dit : Le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères, elle devient même comme un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit cela aux foules en parabole. Il ne leur parlait pas sans parabole. Le royaume des cieux est encore semblable, nous dit Jésus, à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, on le tire sur la rive, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on rejette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer ce qui est méchant de ce qui est juste. Ils jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, » répondirent-ils. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Avant de réfléchir, méditer, rechercher, creuser ce bouquet de 6 paraboles, je vous propose de chanter ensemble le psaume 72, donc toujours dans le psautier français, Revêt, Seigneur, de ta justice le prince de la paix. Les strophes 1, 3 et 4 de ce psaume 72. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nourrir notre vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, contraire à la vie, contraire au bien. Et permets que nous sachions recevoir ta parole de vie, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit, nos cœurs, nos vies tout entières à ta fidélité. vous l'avez entendu, cette page d'Évangile ne contient pas moins de 6 paraboles différentes pour parler du royaume de Dieu. 6 petites histoires toutes simples, introduites par cette même phrase « Le royaume des cieux est semblable à » et suit une curieuse petite histoire un peu surréaliste. Alors ces 6 récits se croisent, se complètent, se nuancent mutuellement. Peut-être que nous aurions préféré un discours bien clair, le royaume des cieux c'est, en 3 points, thèse, antithèse, synthèse, ce serait carré, on pourrait l'apprendre par cœur, on pourrait y croire, ce serait formidable. Alors Jésus plutôt, nous l'avons entendu, parle en parabole. Déjà, une seule parabole est bien plus riche en possibilités d'interprétation qu'un enseignement théologique formel. Et nous avons ici non pas une parabole, mais un réseau de 6 paraboles sur un même sujet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Évangile ne lésine pas sur les moyens pédagogiques pour ouvrir devant nous un espace d'interprétation, pour une interprétation personnelle, libre, un espace large et varié comme un royaume, quelque chose qui puisse vraiment interroger, questionner, nourrir notre propre cheminement. Alors il faut dire que le sujet que traite ici Jésus est probablement un des points essentiels, voire même le point essentiel de l'Évangile, puisqu'il s'agit du royaume de Dieu et que l'Évangile, c'est précisément, on le voit dans le texte, que le royaume de Dieu s'est approché. C'est sur ces paroles que s'ouvre la prédication de Jean-Baptiste, le précurseur. Dans ce même Évangile, selon Matthieu, c'est les premiers mots aussi que prononce Jésus dans le monde, le monde public, disant « le royaume des cieux s'est approché ». Et donc il y a là quelque chose d'essentiel sans doute, mais quoi ? Cette histoire de royaume des cieux a une sorte de résonance mythologique, un petit peu style Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire pour notre existence concrète, pour notre cheminement en ce monde ? Alors je vous le disais en introduction, le royaume des cieux, c'est une figure de ce vers quoi nous voulons tendre, la finalité ultime de notre histoire, de notre cheminement personnel. Visiblement, Jésus veut ici complexifier cette notion de royaume des cieux. Il veut nuancer sa définition et interroger finalement notre propre logique, notre propre définition, nos idées souvent trop claires, trop étroites, trop absolues. Il désire brouiller les pistes à travers cette foison de paraboles, troubler les possesseurs d'idées trop claires, d'idées trop étroites, et ouvrir un espace de réflexion personnelle sur ce sujet essentiel. Alors pour certains, le royaume des cieux, ce serait la vie future, une sorte de lieu de bonheur où seraient accueillis ceux qui n'auraient pas une trop mauvaise moyenne lors du jugement après leur mort. Pour d'autres, le royaume de Dieu serait le monde présent où tous les problèmes seraient résolus, en particulier grâce à l'intervention formidable du Messie qui nous éviterait d'avoir à nous retrousser les manches et à faire peu à peu bâtir un monde plus juste. Alors Jésus n'est pas contre l'idée d'une vie future, mais finalement nous le verrons bien le temps venu, il nous dit que ce n'est pas tellement un sujet de préoccupation pour aujourd'hui. Voilà, occupez-vous plutôt des questions d'aujourd'hui. Et puis Jésus n'est pas indifférent, bien sûr, à la santé, à la justice en ce monde. Il n'est pas indifférent aux soucis de l'autre. Il le montre par, je dirais, 1000 paroles. Il le montre par des gestes si courageux que finalement il va y laisser sa peau. Donc il n'est pas contre le combat pour plus de justice, pour un royaume qui s'actualise dans notre monde. Il n'est pas contre une vie future, mais pour lui, le royaume de Dieu, c'est essentiel qu'il nous propose de considérer finalement comme notre destination. Ce royaume, Jésus en parle au présent. Il est à la fois à découvrir comme déjà là, au plus profond de notre être, et il est encore à espérer, il est encore à... Il appelle notre participation, il est une dynamique. Ce royaume, on le voit dans ces paraboles, n'est pas un lieu, ni futur, ni présent. Ce royaume n'est pas finalement un état, mais c'est plutôt une qualité d'être et c'est un processus de création, un processus d'humanisation, de bonification de l'être, du monde aussi, de notre vie. Un processus que nous pouvons recevoir, dont nous pouvons bénéficier, et un processus auquel nous pouvons nous associer, participer. Et Jésus a besoin de pas moins de 6 paraboles différentes, un peu contradictoires, pour nous parler du royaume des cieux et pour tenter de nous faire saisir l'essentiel, sans nous enfermer dans une doctrine étroite, dans une recette, dans une dogmatique, une doctrine qui viendrait justement étouffer ce dynamisme, le dynamisme de ce royaume qui est en nous. Alors il faudrait une prédication entière pour chacune de ces 6 paraboles, mais je voudrais ce matin seulement de tenter de jeter un coup d'œil sur l'ensemble des 6 paraboles qui se nuancent et se complètent mutuellement. Alors ce qu'on remarque déjà, que ces 6 paraboles sont unies quand même par une chose. Il y a toujours une réalité un peu neutre, bon, un champ, la mer, un tas de farine ou des perles un peu quelconques. Et puis il y a quelque chose de positif et de bon qui évoque le royaume des cieux. L'espace un peu neutre, c'est une image bien sûr de notre existence en ce monde dans lequel nous sommes. Et nous voyons donc bien, à travers ces 6 exemples, ces 6 petites histoires, que ce royaume nous concerne aujourd'hui dans ce qui fait notre être, notre vie, notre monde, notre univers. Et nous voyons que ce monde présent, ce monde matériel, ce monde dans lequel nous sommes, n'est ni à rejeter comme mauvais, ni à négliger pour fuir dans le spirituel. Non. Au contraire, le caractère neutre du monde rend toute chose possible, le meilleur comme le pire. Donc il est important que le royaume soit reconnu et se manifeste au sein de cet univers qui est le nôtre. Nous voyons que Jésus cherche à nous faire porter tout au long de ces 6 histoires un regard positif sur ce monde. Oui, le bien existe, nous dit-il. Le bien existe de multiples façons, même si ce n'est que partiellement, même si ce n'est que sous forme d'un minuscule germe, d'une minuscule graine, même si ce n'est que du levain invisible au milieu de la farine, même si c'est seulement sous forme de l'espérance qui est celle du semeur, du pêcheur ou du chercheur de trésors. Ce regard optimiste de Jésus n'est pas un regard naïf, car il évoque aussi le mal qui existe dans ce monde. Et il y en a de toutes sortes, on le voit dans ces histoires. Il y a les mauvaises herbes et les poissons toxiques qui évoquent les mauvaises choses qui sont dans notre monde, dans notre vie, bien sûr. Et puis, il y a ce manque d'être, cette attente de l'agriculteur, de la boulangère, du chercheur de trésors qui évoque le manque de bien, cette soif que nous avons de mieux. Alors nous pouvons remarquer donc qu'il y a du bien et du mal dans ce monde, avoir ce regard positif. Et nous pouvons remarquer ensuite que dans la plupart des cas, le royaume des cieux est dynamique. Il est comparé à un homme qui sème, il est comparé à une graine qui pousse, à du levain qui soulève la pâte. Il est comparé à un homme qui cherche, il est comparé à un filet qui est jeté dans la mer à la recherche de quelque chose de bien. Ce côté dynamique est ainsi une dimension essentielle, importante, de cette vie selon Dieu qu'est le royaume. Mais il y a quand même une parabole qui tranche par rapport à cette idée d'un royaume dynamique. C'est cette parabole qui présente un royaume plus statique. Le royaume des cieux, nous dit Jésus, est semblable à un trésor ayant été caché dans un champ. Un trésor qui est là, stable, tranquille, invisible, comme une réalité profonde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le sache ou non, qu'on le cherche ou non, il existe un trésor qui est enfoui au plus profond de notre être, au cœur de l'humanité. Il existe un trésor dans l'univers, trésor dont nous ne sommes qu'une partie finalement. C'est ce qu'on appelle en théologie chrétienne, en patois de Canaan, la grâce. La grâce qui fait en particulier que tout homme, indépendamment de ses performances, et je crois qu'il y a là une idée essentielle, tout homme a une valeur infinie, même si cette valeur est comme un trésor enterré, totalement invisible de l'extérieur, le trésor existe. Alors heureusement, la plupart du temps, nous avons une valeur objective. Par exemple, nous avons un peu d'intelligence ou quelques capacités, quelques dons. Mais dans des cas extrêmes, par exemple un nourrisson ou une parole profondément handicapée, la valeur est effectivement plutôt une valeur subjective. C'est par l'amour, c'est par l'attachement ou par le simple respect que quelqu'un a pour cette personne que cette valeur est reconnue. La valeur est comme alors cachée, elle n'est plus physique, elle est métaphysique finalement. Et même s'il n'y avait personne pour reconnaître la valeur de cet être, reconnaître que cet être vaut quelque chose, c'est-à-dire comme s'il n'y avait personne pour mettre en nous cette valeur cachée finalement, comme ces clochards qui meurent parfois dans la rue sans que personne ne se souvienne de leur nom, eh bien il y aura toujours Dieu pour nous donner une valeur éternelle, une valeur infinie, nous dit Jésus dans cette parabole, car comme toujours, quand il y a un passif sans sujet dans la Bible, eh bien c'est Dieu qui est derrière ce passif. Et donc c'est Dieu qui est le sujet anonyme de ce trésor ayant été caché. Oui, toute personne a une valeur infinie, même si elle est cachée. Le royaume, nous dit Jésus, est au-dedans de nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Il est au milieu de nous dans ces liens fraternels, ces liens spirituels, dans ces attachements qui nous relient les uns aux autres, qui nous font compter les uns sur les autres, qui nous font reconnaître que l'autre est important aux yeux de l'univers tout entier. Valeur de chaque homme, valeur de l'humanité, valeur de la vie en ce monde, valeur d'une culture. Alors quand on reconnaît ce trésor par l'attachement, par le spirituel, que fait-on ? Jésus, là encore, dans cette histoire, nous étonne. L'homme qui a trouvé le trésor, au lieu de partir avec sous le bras et d'aller, je ne sais pas quoi, moi, à l'autre bout du monde pour aller au soleil, je ne sais pas. Non, il va recacher le trésor dans le champ, nous dit Jésus, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Alors bien sûr, c'est invraisemblable, mais cela nous dit quelque chose d'essentiel. Le premier réflexe serait, bien sûr, une fois d'avoir reconnu la valeur spirituelle, ce trésor qu'est la valeur spirituelle de l'être, eh bien de la déterrer et d'abandonner le reste du champ, de garder le spirituel pur et d'abandonner le reste, toutes les autres dimensions de notre être. Mais non, nous dit Jésus, il ne faut pas séparer le trésor du champ. Au nom de la valeur infinie qu'a tout homme sur le plan spirituel, c'est à tout l'homme que Jésus s'intéresse et nous invite à nous intéresser dans ses dimensions physiques, dans ses dimensions sociales, culturelles, ses dimensions de capacité à produire, à porter du sens, etc. Le royaume est ainsi une réalité qui nous habite, une réalité qui a une stabilité inébranlable, celle de l'attachement par la grâce. Et c'est bien de cela que veut témoigner le geste du baptême. Même s'il n'y avait rien d'autre, il y aurait au moins cela de bon, cela d'éternel, cela qui vaut la peine de s'engager, cela qui fait que Dieu s'engage pour chacun de nous, le trésor qui est au fond de notre être. Alors la parabole de la perle parle aussi d'un trésor caché, mais Jésus ajoute là une dimension dynamique qui contredit un peu, qui complète celle du trésor dans le champ. Le royaume n'est plus la perle de grand prix, le royaume c'est semblable à l'homme qui part en voyage pour rechercher un trésor supérieur à tout ce qu'il a trouvé jusqu'alors. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel à travers cette idée que nous propose Jésus. Il y a quelque chose d'essentiel dans le fait même de se bouger et de chercher. Et en cela, nous avons bien des affinités, nous chrétiens, avec tout homme qui cherche le bien, avec les philosophes et les religieux de tout poil, les militants, les scientifiques, les penseurs. Il existe quantité de perles en ce monde, des perles qui ont une valeur vraie, l'essentiel. Il y a un essentiel dans le fait de sortir, de bouger, de chercher. Mais la perle de grand prix dont parle ce texte, elle est littéralement polyvalable, nous dit Jésus. Et là encore, nous avons un appel à prendre en compte les multiples dimensions de l'humanité, de les prendre d'une façon globale, comme un tout, comme un univers finalement, et pas seulement comme des perles séparées que nous enfilerions sur un fil. La vie selon Dieu est ainsi une dynamique, comme cette recherche de la valeur complexe. Mais le royaume est encore plus dynamique que cela. Les autres paraboles nous montrent que le royaume est un processus de bonification. Et cette bonification du monde, elle se fait de deux façons, nous dit Jésus. D'abord en semant de bonnes choses, en semant des graines dans la terre, en semant de la levure dans la farine. Il ne faut pas se tromper et faire l'inverse, sinon ça ne donne rien. Et donc à chaque situation, à chaque réalité de ce monde, il faut trouver une juste façon d'agir pour faire avancer les choses, d'agir d'une façon créatrice. On peut ajouter quelque chose à la réalité de ce monde comme une bonne graine, ou on peut au contraire creuser un espace comme la levure crée des bulles d'air, de gaz dans la farine, dans la pâte, dans la pâte de notre univers. Nous pouvons faire cela selon ce que nous aurons à cœur de faire. Le royaume des cieux est donc un élan créatif. Nous en sommes les bénéficiaires, bien sûr, mais nous en sommes aussi parfois l'auteur, même modestement, d'une bulle d'air ou deux dans la pâte de notre monde, d'une bonne graine. Il en existe mille sortes différentes, des graines de blé, des graines de moutarde, de ridiculement petites qui grandissent énormément, que sais-je. Alors ça, c'est la première façon d'améliorer, de bonifier le monde. La seconde façon est d'améliorer la réalité en purifiant le monde. Et ça, c'est beaucoup plus délicat. On sait les dégâts que ça a pu faire. Jésus compare le royaume de Dieu à un filet de pêcheurs jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toutes sortes. Les bons poissons sont ensuite gardés dans des vases et les mauvais poissons sont jetés dans le feu, comme on fait d'habitude avec les poissons pourris. Cette idée d'aller à la pêche et de retenir que ce qui est bon, c'est la base même de la bienveillance qui est proposée par Jésus-Christ. Car si l'on peut voir une menace dans cette idée de jeter les vieux poissons au feu, ce n'est pas une menace contre la personne, au contraire. Cette idée de partir à la pêche et de garder ce qui est bon, de rejeter ce qui est moins bon, c'est en fait l'amour et la bienveillance qui est décrit à travers cette image. En chacun de nous, nous avait déjà dit Jésus, il y a un trésor, il y a donc un bon poisson, même s'il est tout au fond ou perdu dans un banc de poissons toxiques. L'amour sait reconnaître le bien, même si c'est au milieu du mal. L'Évangile nous dit que Dieu agit comme ce bon pêcheur, agit avec une bienveillance active qui sait, qui saura toujours dénicher, garder ce qui est bon au plus profond de notre être, et il sait que ça existe, ce bon. Face au monde, face à une personne que nous rencontrons, face aussi à notre propre existence, nous pouvons ainsi partir à la pêche, chercher sous la surface pour trouver ce qui est bon, c'est un peu comme la recherche du trésor. Mais quand on va ainsi à la pêche, on retire plein de choses, des bons poissons, des mauvais poissons, aussi de vieilles chaussures, bien sûr. Il y a un peu tout ça au fond de chacun d'entre nous, plus ou moins, mais il y a toujours au moins un bon petit poisson, vraiment bon. L'essentiel, c'est d'aller le chercher, de le trouver, de ne pas le confondre avec le reste, de le garder et de rejeter le mal, si on peut, de se purifier de ce mal, de le mettre à la décharge. Et c'est vraiment une grâce que de pouvoir vivre cela, recevoir ce service de la part de Dieu. Ce n'est pas une torture, ce n'est pas un arrachement, ce n'est pas une amputation, c'est le bénéfice d'une purification pour le meilleur. Le royaume est ainsi une bienveillance active et délibérée. Cela rend la vie tellement plus belle que de passer sans voir le bien qui existe. Cela rend la vie tellement plus joyeuse que d'aller à la pêche de ce qui est mauvais et de ne retenir que cela. Et souvent, dans notre dépression, dans notre méchanceté, c'est ce geste que nous avons. Geste mauvais, maladif, si je puis dire. Le royaume est au contraire un élan de bienveillance, d'ensemencement et de purification. Dieu est comme cela, et tout élan de ce type participe à cet élan de vie, de qualité de vie, lui donnant une dimension de durée, d'éternité. Oui, nous dit Jésus, la bienveillance a une réelle efficacité dans ce monde pour créer le monde de demain. Mais la parabole du bon grain et de l'ivraie nous place là encore face à la dure réalité de l'existence permanente du mal. Et cette parabole est bien plus réaliste que celle de la pêche ou de la chasse au trésor. Patience, nous dit Jésus, il y a du mal dans ce monde, du mal qui nous résiste, du mal qui grandit même, mais le monde est en cours de genèse. Nous sommes nous-mêmes en cours de genèse et tout l'univers est dans un lent mouvement d'évolution. Une part de chaos demeure encore dans ce monde sans que nous en soyons responsables, ni Dieu qui est à l'œuvre, ni nous. Mais parfois, malheureusement, il existe, comme on le voit dans cette parabole. Il existe des fois où nous sommes comme cet homme ennemi de la parabole qui sème du chien dent dans ce monde. Heureusement, nous sommes aussi parfois l'homme qui sème de bonnes graines, mais nous sommes toujours un peu entre les deux. Parfois, oui, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, aller à la pêche des bons poissons et puis éliminer quelques poissons pourris. C'est possible parfois. Mais parfois, nous dit cette parabole, ce n'est pas possible. Parfois, on ne peut pas arracher le mal qui existe dans ce monde, qui existe en nous, sans tuer l'homme, sans tuer la vie, sans tuer cette dynamique. C'est un drame, mais c'est ainsi, malheureusement, c'est une réalité. Parfois, c'est impossible, même pour Dieu, d'arracher le mal, nous dit Jésus. Il faut à ce moment-là de la patience, attendre, continuer à semer, continuer à planter, continuer à faire ce que l'on peut, continuer à espérer. Oui, parfois, Dieu pleure devant notre méchanceté et il ne peut rien faire. Il essaye de planter des graines de bonté et de miséricorde. Il tente d'accompagner, de consoler comme une mère console son enfant. Il tente d'appeler au meilleur chacun de nous, d'insuffler un peu de sa vitalité dans la pâte de notre matière. Et il patiente encore, il aime, il patiente malgré son impatience bienfaisante. Notre Père à tous, que ton règne vienne, sur la terre et en nous, dans notre être tout entier, viens nous animer de ta bonne vitalité. Amen.